Entre 1h et 6h du matin, les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Écrivain, historien, archéologue, animateur d'expositions et d'aventures collectives, et surtout, bien sûr, peintre, et figure centrale du mouvement Cobra. Et puis, héros du profil qui suit, profil perdu, Asger Jorn. Première partie, tout de suite, dans les nuits de France Culture.
At der findes ikke en selvstændig kunstopfattelse. Enten er den altså litterært personlig, eller også er den arkitektonisk personlig.
Profil perdu, Asger Jorn, par Luc Fonnette et Marie-France Nussbaum.
Jorn était à la fois peintre, poète, archéologue, musicien. Il fait aussi des essais de musique et certaines d'ailleurs en collaboration avec Dubuffet, car il s'est lié plus tard avec Dubuffet. Il était quelqu'un que Dubuffet pouvait comprendre et lui pouvait comprendre Dubuffet. C'était aussi deux personnages très singuliers. Jorn est né dans cette culture scandinave qui était à peu près inconnue à l'époque en France, cette culture viking, à laquelle il a toujours été très sensible. Il a fait d'ailleurs des études archéologiques sur ces vieilles cornes danoises qui sont extrêmement sculptées, sur aussi les vieilles églises danoises qui ont une déclaration populaire assez étonnante. C'était un art populaire dont on n'a pas l'équivalent en France. Et puis, Jorn, une spécificité de Jorn, c'est sa multicuriosité. Enfin, comme les artistes de la Renaissance. Mais c'est une chose qui, en France, pays de la spécialité, est très mal compris et même rejetée en général.
Jorn, lui, c'est un vandale, disait Prévert. Un vandale héréditaire, péninsulaire, ingénu et hilar. Un innocent, témoin de la vie sans procès. 1914, c'est l'année de sa naissance.
Jorn était né à Veirum, près de pas loin de Silkeborg, dans le Jutland, qui est la partie la plus sauvage du Danemark et qui est une presqu'île unie à l'Europe par une blessure, la blessure du Schleswig-Holstein, qui a toujours été l'objet de guerre entre l'Allemagne et le Danemark. Et c'est au Jutland que Jutland que Kierkegaard est allé sur une colline pour injurier Dieu avant d'écrire tous ses essais théologiques et philosophiques. Le Jutland de Jorn, c'est le Jutland dans le sens le plus direct aussi, parce que c'est cette nature sauvage qui est à l'écart même de Copenhague. C'est là donc qu'il a commencé à trouver la primitivité danoise, la spécificité profonde du Danemark. Jorn était le fils d'un instituteur. Il a été lui-même instituteur, mais très peu de temps. Et il y a eu toujours chez lui une hostilité très grande à l'égard de tout ce qui était, disons, didactique. Scolastique, je veux dire, de l'idéologie, de la théorie.
Thank you.
Jorn est quelqu'un qui combattait contre son talent. Il aimait se mettre en péril.
Pierre Alechinski.
Il aimait bien aussi qu'on soit un peu frustré, qu'on ne voit pas toutes ses possibilités. Il s'empêchait aussi d'aller trop vite dans un progrès. Il donnait comme exemple qu'un avion, pour ne pas tomber en perte de vitesse au moment du décollage, met tout ce qu'il peut, et à la fois de moteur et à la fois de frein. Il sort tout ce qu'il peut de frein en mettant plein gaz. Les freins, on les sent très bien dans la peinture de Jorn. Et très curieusement, plus il avance en âge, plus il s'intéresse en historien à l'image. C'est un érudit qui a exploité des images très peu connues, comme par exemple tous les graffitis sur les parvis d'églises dans l'Eure et le Calvados. Il a financé tout un travail d'iconographie. Il se promenait avec le photographe qui avait servi à Malraux pour collecter toutes ces images extrêmement secrètes que personne ne regarde. Et à la fois, il connaissait admirablement l'art d'un âge très profond, scandinave et irlandais, et les traces vikings à travers le monde. Et ce sont des images où la figuration a une grande importance. Et plus il s'y connaît en iconographie ancienne, moins il produira une image claire dans sa propre peinture. Plus il sera comme diffus, répandu, imprécis par une sorte de volonté de ne pas être tout de suite vu ou compris. Ça reste toujours extrêmement vibrant et beau. J'adore, c'est même ses dernières peintures, et le dernier dessin qu'il a tracé avant de mourir, c'est d'un équilibre parfait, mais c'est presque rien, c'est pas le presque rien. À la chinoise, s'arrêter à temps.
La culture scandinave, c'est avant tout la culture oubliée, sans histoire, interrompue depuis l'âge de pierre. Plus vieille même et plus immobile que la culture chinoise. Qu'est-ce que je puis citer de mes ancêtres avec un si pesant héritage d'oubli ?
Jorn, particulièrement, il y avait cette recherche des origines, chez Guy Jacobsen aussi, chez d'autres Danois.
Christian Dotremont, poète belge, dont l'entretien a été enregistré quelque temps avant sa mort, en 1979.
Il y a eu au Danemark une époque assez vague, c'est-à-dire la modernité est apparue assez tard. Il y a eu aussi un vide, comme en Hollande. Mais ces Danois ont donc, à partir de tout un mélange d'influences survenues tout à coup dans les années 30, ont commencé à chercher leur primitivité, la primitivité scandinave dans l'art préhistorique, dans l'art viking, etc. Mais ils sont allés plus loin, ils ont cherché aussi la primitivité scandinave dans un sens, dans une sensualité, dans une intelligence générale. Et tout le mouvement, la façon de se mouvoir, d'agir, de vivre, d'expérimenter, de peindre, de penser aussi, de Jorn, est typiquement scandinave. Seulement, il a dû dégager cette spécificité de primitivité superficielle et aussi de tout un art danois, de toute une pensée danoise qui était plutôt théologique que protestante.
qui avait 20 ans quand Hitler s'empara de l'Allemagne, descendit de son Jutland à Paris, travailla pour Ferland Léger et Le Corbusier, un pavillon de l'exposition universelle de 1937, sous l'occupation, rentra au pays dans la semi-clandestinité de l'avant-garde des artistes danois, enfourcha un cheval d'enfer, Helhesten, pour des randonnées dans des réserves scandinaves d'art sauvage et populaire, et sut à son heure, mature alors totalement, arborer les couleurs de l'enfin liberté. Celui-là n'a forcément pas sur l'époque et ses perspectives le même point de vue que ce autre, un petit écolier, en 1939, encore loin des Passos. Dans un restaurant chinois des environs de la gare de Lyon, années 60, je disais à Jorn mon regret d'avoir été trop jeune du temps de Cobra, montrait un agacement rétrospectif. Mais lui, de nous deux, c'est toi le plus vieux. En 1914, le monde est moins vieux qu'en 1927. Je suis né dans un monde plus jeune que celui qui t'a vu naître.
Au cours de l'histoire, peintres et poètes des pays scandinaves sont venus prendre et apprendre chez les créateurs des autres nations, mais jamais ils n'ont rendu, encore moins donné. Nous savons que vous nous attendez. Nous jetons par-dessus bord nos vieux complexes d'infériorité. Nous sommes décidés à transformer le monde et à changer la vie. Avec vous, nous jetons nos yeux dans la balance.
En 1933, une chose importante pour l'art danois, c'est la revue Linienne, la ligne.
Oui, la revue Linienne et ensuite la revue Einstein.
Michel Ragon.
Ce sont des revues qui, déjà très tôt, ont fait le point entre le surréalisme et l'expressionnisme. L'expressionnisme, bon, avait beaucoup marqué toute la culture germanique et scandinave, bien sûr. Le surréalisme est venu plus tard, mais justement, Linienne a été un groupe d'artistes, dont faisait partie
Jorn,
qui ont accueilli donc le surréalisme. Mais ils ont accueilli aussi très tôt l'abstraction. Donc il y a une espèce de mélange qui se fait, qui est tout à fait détonnant, il n'y a pas d'exemple semblable en France, entre expressionnisme, surréalisme et abstraction. Et ça, ça va rester quelque chose qui va profondément marquer la peinture de Jorn jusqu'à sa mort. Parfois, il se rapproche de l'abstraction. Parfois, il est tout à fait expressionniste. Parfois, on pourrait dire qu'il y a un côté surréaliste dans sa peinture.
Dans ses peintures, quand il a une trentaine d'années, c'est-à-dire au début de la guerre, sous l'occupation, et après la guerre, juste après la guerre, il a une imagerie assez précise. Il va lutter contre cette imagerie assez précise. Il aime cette lutte contre lui-même. Ça, c'est Jorn. Il lutte contre lui-même, contre son talent. C'est une démarche parallèle qu'on trouve chez quelqu'un comme Pollock. Pollock a une grande connaissance du dessin, Jorn a une grande connaissance du dessin. Et en avançant, il rejette cette connaissance. Ce qui est tout à fait différent de quelqu'un qui ferait des tâches sans avoir une connaissance du dessin. Parce que c'est émouvant par rapport à cette connaissance. Par rapport à la distance prise.
L'artiste participe activement à la lutte pour que soit approfondie cette connaissance qui est nôtre, de notre fondement vital. Ce fondement qui, pour lui, rend possible une création artistique. La zone d'intérêt de l'artiste ne se laisse pas limiter à ce seul domaine, cependant. Il doit rechercher la prise de conscience ultime du tout et de ses détails. Rien n'est sacré pour lui, car tout lui est devenu important. Il ne peut en aucune manière s'agir d'un choix, mais au contraire, de pénétrer dans tout le système cosmique des lois qui régissent les rythmes, les énergies et la substance qui font la réalité du monde. Et cela du plus laid au plus beau. Tout ce qui a un caractère et une expression, que ce soit le plus grossier, le plus brutal, ou le plus fin et le plus tendre, tout ce qui nous parle, parce que c'est la vie même. Et pour tout exprimer, il faut tout connaître. On supprime le principe esthétique. Nous ne sommes pas désillusionnés parce que nous n'avons pas d'illusion. Nous n'en avons pas eu. Ce que nous possédons et qui représente notre force, c'est que la vie nous met en joie, c'est que la vie dans tous ses aspects amoraux éveille notre intérêt. Et c'est cela aussi qui représente le fondement de l'art d'aujourd'hui. Les enfants qui aiment les images d'Épinal et qui les collent dans des livres qui portent l'inscription « Album » donnent plus d'espoir aux artistes que ne le font divers critiques d'art et directeurs de musées. Asger Jorn, Banalités intimes, 1941.
Cobra, avant d'être un mouvement international, est une association d'artistes qui s'est formée à partir de quelques rencontres. Un des fondateurs du groupe, le peintre hollandais Constant.
Pour moi, toute cette histoire a commencé en 1946, quand, par hasard, j'ai rencontré Asger Jorn dans la Galerie Pierre, dans la rue de Seine à Paris. Et on s'est fait rendez-vous le même soir au Café Flore, où on a parlé ensemble. Et il a développé des idées de fonder un groupement international, nordique surtout, pour faire tête à la situation de l'école de Paris, qui prolongeait, selon ses concepts, et j'étais d'accord avec ça, d'une culture centralisée à Paris. Il ne connaissait pas ce que je faisais à l'époque encore, mais il m'a invité dans sa chambre d'hôtel, dans la rue de Ciseaux, en face du Café Flore. Et là, il m'a montré les tableaux qu'il avait faits. Quelques semaines après, à son retour pour le Danemark, il m'a visité à Amsterdam. Il est resté quelques semaines avec moi. Et c'est alors qu'on a eu le temps de parler longuement ensemble, développer des idées communes. C'est là, je crois, l'origine de Cobra. L'essence de ces idées consistait surtout en ceci, que la conception d'un art purement abstrait était une illusion, parce que dans chaque image, il y a fait un contenu qui excite et qui provoque dans nous la création d'image surtout. Et l'image est toujours une image avec un contenu, avec une idée, avec un sens, avec une iconographie.
Un processus au déroulement et au résultat inconnu.
Dans un texte publié, je pense, en 1973, à l'occasion d'une exposition de Jorn au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles,
Joseph Noiret.
D'autres mots qui n'étaient pas exactement un esprit expansif, se laissant aller au sentimentalisme, dit d'une façon assez abrupte qu'il avait été renversé par la rencontre avec Jorn. Et je crois que c'était l'effet que produisait Jorn. Il était bouleversant d'une certaine façon. Peut-être était-ce l'irruption dans un monde très, très influencé par, disons, la France, l'esprit français. C'était l'irruption de cette espèce de viking qui avait une autre manière d'être, une autre manière d'agir, qui avait des conceptions tellement différentes et qui apportait cette idée d'expérimentation et qui est un de ceux qui ont aussi introduit dans Cobra la référence à l'art populaire dont il était passionné.
Il y avait déjà entre nous beaucoup d'accords avant que nous nous connaissions, beaucoup d'affinités, et j'ai organisé en 1947 à Bruxelles la conférence internationale du surréalisme révolutionnaire, à laquelle sont venus les Français et les Tchèques surréalistes révolutionnaires, et à laquelle est venu Asger Jorn, qui a adhéré au surréalisme révolutionnaire, parce qu'il a trouvé là une sorte de structure d'accueil qui lui permettait de réaliser, d'entrevoir un développement de cet art danois abstrait spontané et de ses idées régionaliste, internationaliste, dont quelques-uns d'entre nous, et moi particulièrement, je pense, étions assez proches. Parce que j'avais, en 1946, à Paris, j'avais cherché partout de jeunes surréalistes, désireux de renouveler l'expérimentation surréaliste. J'ai trouvé une petite revue, La Révolution la nuit, et que publiait Bonnefoy, et j'ai rencontré Bonnefoy au Notre-Dame Hôtel, et c'est pourquoi j'ai invité mes amis les plus proches, Noiret, qui est un écrivain de Belgique, Jorn, Appel, Constant et Corneille. Je les ai invités au café du Notre-Dame Hôtel et j'ai écrit rapidement une très brève déclaration où il est très significatif qu'il ne se trouve pas le mot « art », mais le mot « travail », le mot « expérimental », etc., et cette déclaration, cette brève déclaration a été signée par nous six, non-français, à Paris, un peu contre Paris, contre l'impérialisme culturel parisien et contre la centralisation parisienne. Et Cobra a ainsi été fondé, Cobra est né, et quelques jours après, à Bruxelles, j'ai créé le nom de Cobra.
Il faut se dire que dans Cobra, il y a une espèce de réussite verbale. Quand nous imaginons de faire Cobra, on se pose la question du nom qu'on va donner à ce mouvement. Et ce que nous ne voulons pas, c'est un isme quelconque. Mais quel nom ? Alors parmi les noms, il y avait Isabelle, que d'autres mots imaginaient retenir. Il y avait aussi Cobra. Et Cobra, Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, c'était le coup de chance. La chance d'avoir un mot qui était une confusion avec un objet réel, un serpent, le cobra, qui rencontrait la mythologie nordique dont Jorn avait beaucoup parlé et dont il avait réuni beaucoup de témoignages dans un livre sur cette mythologie, le serpent. C'était aussi le refus justement de l'isme dont je vous parlais. Et c'était donc un mot qui caractérisait le côté international que Cobra voulait développer. Cobra n'a jamais été un groupe au sens propre du terme. C'est un mouvement, sans doute, mais un mouvement qui n'est jamais clos sur lui-même, qui, par conséquent, est plutôt le passage dans l'activité d'un certain nombre d'artistes et d'écrivains, un passage, quelques années de passage, au-delà desquels ils vont continuer de développer une activité qui, pour moi, est toujours Cobra. La plupart de ceux qui ont été actifs dans Cobra, qui ont créé au cours des années historiques de Cobra, c'est-à-dire 48-51, ont poursuivi une activité dans laquelle on retrouve les traits de Cobra, c'est-à-dire l'échange entre le peintre et l'écrivain, le travail simultané à l'intérieur d'une œuvre, d'un tableau, d'une sculpture, d'un texte. Le refus de toute forme, évidemment, le refus de toute forme d'académisme et un certain culte de ce que nous appelions l'expérimentation et la spontanéité. Et je crois que ça se retrouve. Par conséquent, Cobra ne peut pas être limité comme on pourrait limiter le groupe surréaliste. Bien que là encore, je pense que le surréalisme est très rapidement devenu un état d'esprit. Au-delà des groupes constitués qui avaient évidemment qui devaient avoir l'imprimatur de Breton ou de ceux qui se prenaient pour les officiels du surréalisme. C'est plutôt un état d'esprit et je crois que Cobra était un état d'esprit. C'est là justement le côté bouleversant. Parce que finalement, c'est vrai peut-être que chez les surréalistes, l'aspect intellectuel a été très souvent pesant. Et c'est la découverte que nous faisons, c'est que tout à coup, il est possible de rompre avec ce théoricisme, avec cette maladie intellectualiste que l'on trouve trop souvent à Paris, qui se développe trop souvent à Paris, et contre laquelle, d'ailleurs, nous créons Cobra. Parce que finalement, c'est contre cet état d'esprit, contre cet esprit théorique, théoricisant, que nous décidons de nous en aller. C'est très simple. Et si on lit clairement, si on lit simplement le manifeste de Cobra, la cause était entendue. Il y a la dérision du manifeste surréaliste révolutionnaire français, la cause est entendue, mais il y a aussi l'évidence du refus de toute théorie, et nous le disons. Nous refusons d'énoncer quelque principe théorique que ce soit, nous disons simplement, nous allons travailler ensemble, et nous travaillerons ensemble tant que nous avons le besoin intérieur de travailler ensemble. Et nous ne disons rien de plus. C'était très significatif du refus de la théorie dans Cobra.
L'art de Cobra se distingue des autres tendances de son époque par son point de départ, qui représente une nouvelle optique de l'art abstrait. On peut dire que c'est un art abstrait qui ne croit pas à l'abstraction.
Il parlait mal français, mais il se faisait très bien comprendre. Un grand type blond, il était...
Denis Breton.
Il était chouette comme tout, moi je l'aimais beaucoup. Il avait des yeux doux. Ils sont gentils les Danois, hein, très doux. Et je m'aperçois que Cobra, c'était une création extraordinaire de vitalité, de désir de liberté, et... pur, très pur comme désir. Et c'était Jan qui l'a créé. Hein. C'est Jan qui l'a créé. Et cet ensemble d'artistes, c'était Appel le plus peintre. Appel, c'est un très beau peintre. Bon. Mais même Corneille, Constant, tout ça. Et Jan, lui, il démolissait, il était agressif, mais il était très fort, donc ça m'a plu.
Qu'est-ce que vous exposiez dans cette première exposition? Parce qu'au fond... c'est vous qui avez exposé pour la première fois Jorn,
oui,
à Paris.
Alors c'était très divers. L'exposition était pas mal, mais vous savez, ils n'avaient aucun succès à cette époque-là. Il n'est venu presque personne. Et pourtant, la galerie, elle était visitée. Hein. Ça n'intéressait absolument personne. Et ça a été récupéré par les marchands après 50, vers les années 50, 55, par là, 60, jusqu'en 60. Il y en a même qui font du Cobra, toujours.
Mm-hmm.
qu'il faut tout de même pas oublier non plus que les années, ce sont des années d'après-guerre. Ce sont les années qui viennent d'après la guerre 40-45, pendant lesquelles nous imaginons qu'on peut changer la vie. Nous imaginons non seulement changer la vie, mais changer politiquement la vie. En fait, on recommence une expérience politique après-guerre, notamment dans le cercle révolutionnaire, de collaboration avec les communistes, par exemple, dans l'illusion, évidemment, l'illusion dont nous retombons très vite, qu'il est possible de créer une société différente, un monde différent, plus humain, comme nous disions, avec quelques naïvetés. Et Jørn participait de cette idée-là, puisque Jørn était communiste danois, avec un parti communiste qui n'avait rien de commun avec le parti communiste français. C'était un parti communiste danois, et ça Jørn me l'a dit, qui tolérait des formes d'expression plastique, qui ne se préoccupait pas de régenter sous forme de réalisme socialiste la création des membres du parti communiste. Nous pensions changer la vie sur le plan politique, nous avions une grande naïveté, une grande spontanéité, ce qui aussi se retrouvait chez une série d'individus, ceux qui vont se rencontrer. Je veux dire par là qu'une série de traits, d'espoir, de désir, d'hypothèses, de vie, surgissent dans un contexte bien défini qui va disparaître et qui fait qu'aujourd'hui, il est souvent très difficile de comprendre ce que c'était exactement que Cobra et la vie de Cobra. Le contexte est tellement différent. Le monde aujourd'hui est un monde dont je dirais que... Ou plutôt l'époque de Cobra, c'est une époque préhistorique par rapport à aujourd'hui. Et il est difficile pour des gens d'aujourd'hui, des générations ultérieures, de se représenter ce que pouvait être l'état d'esprit, le désir, l'imagination, les naïvetés, les rêves de ceux qui sortaient de cette guerre et qui croyaient tout possible, on allait tout faire.
Christian D'Autremont est le rédacteur en chef de la revue Cobra, dont le numéro 1 publie un article de Jørn, « Le discours au pingouin ». Il définit les ambitions morales de Cobra et marque ses distances avec le surréalisme de Breton.
La morale, c'est le moral. La fonction réelle de la pensée et de trouver les moyens propres à satisfaire nos besoins et désirs. Notre expérimentation cherche à laisser s'exprimer la pensée spontanément, hors de tout contrôle exercé par la raison. Par le moyen de cette spontanéité irrationnelle, nous atteignons la source vitale de l'être. Notre but est d'échapper au règne de la raison, qui n'a été, qui n'est encore autre chose que le règne idéalisé de la bourgeoisie, pour aboutir au règne de la vie. Mais contrairement à Breton, nous pensons que derrière les fausses conceptions morales ou esthétiques, métaphysiques, qui ne correspondent pas aux intérêts vitaux de l'homme, existe la vraie morale et la vraie esthétique matérialiste. L'une est l'instinct de nos besoins, l'autre est l'expression de nos désirs sensoriels. La loi esthétique est celle de nos désirs, qui enrichissent en le diversifiant le thème déterminé de la morale humaine. C'est ainsi que le but de l'art est d'abord moral et ensuite esthétique. Pour la bourgeoisie, l'esthétique et la morale sont non seulement distinctes, mais en situation dramatique. Pour le matérialiste, elles sont liées, dans une situation dialectique. Thank you.
Il est évident que l'expérimentation telle que Jørn la représentait, le groupe expérimental du Danemark, à la conférence de l'horloge. Il est évident que l'expérimentation n'a rien à voir avec l'expérimentation scientifique. Il est évident que l'expérimentation scientifique part d'une idée ou d'une hypothèse et tente de vérifier dans les faits cette hypothèse. Ici, il s'agit d'expérimenter notamment les matières, voir ce que les matières finissent par dire quand on s'occupe d'elles. C'est-à-dire quand on leur donne la parole, mais donner la parole, c'est comme quand on écrit. Il faut posséder la langue, il faut posséder la syntaxe, le vocabulaire, il faut avoir une culture linguistique. Jørn avait possédait une technique, il possédait des connaissances, mais ces connaissances ne l'emportaient pas sur l'acte créateur. Quant à la spontanéité, c'est une spontanéité qui n'a rien à voir, me semble-t-il, avec l'automatisme, par exemple, de l'écriture automatique des surréalistes, que nous avons toujours contesté. Nous avons toujours contesté cette idée de l'écriture automatique, estimant qu'il était tout de même paradoxal que l'écriture automatique ne présentait de qualité que, soit pour un psychanalyste, ce qui ne nous intéressait pas du tout, soit littéraire, parce qu'ils étaient le produit d'écrivains. Quand Breton ou Desnos se laissaient aller à l'automatisme, ben, c'était pas le cocher de fiacre. Par conséquent, leurs textes avaient des qualités parce qu'ils possédaient précisément un savoir-dire. Ils possédaient une syntaxe, ils possédaient tout un imaginaire linguistique qui se retrouvait dans... Donc pour nous, la spontanéité, c'était plutôt l'idée par laquelle nous donnions la parole aux mots, aux couleurs, aux formes, sans préjugé préalable d'aucune espèce. Et certainement pas que le préjugé de faire une œuvre d'art.
Jørn avait écrit dans Helhest un texte admirable où il disait que l'écriture était une peinture, ce que, de mon côté, j'avais écrit dans mes premiers essais, dans les années 43-44. J'ai commencé à publier une petite encyclopédie dont le premier volume était intitulé « De la lettre à l'esprit ». Et il y avait donc là un parallélisme. Et c'est quand nous nous sommes rencontrés que nous avons créé ces peintures mots. Peintures mots qui sont donc typiques de cet interspécialisme de Cobra et typiques de cette interaction générale qu'il y a dans Cobra entre la peinture, la poésie, l'ethnologie, puisque Jørn était aussi une sorte d'ethnologue. Et c'est déjà en mars 1948 que Jørn et moi avons commencé à peindre les peintures mots. Je me souviens de la première peinture mot, nous étions très très pauvres et nous avions trouvé de l'argent uniquement pour de la couleur bleue, si bien que c'est une époque bleue de la peinture de Jørn et de ma poésie.
Il y a plus de choses dans la terre d'un tableau que dans le ciel de la théorie esthétique.
À partir de 1947-1948 et jusqu'à la fin de sa vie, en fait,
Jorn sera en pleine possession de son art, de son expression. Alors elle prendra des formes diverses, elle sera parfois beaucoup plus violemment figurative, parfois beaucoup moins. Mais il y aura toujours chez Jorn cette même chose qui est une violence d'expression, qui est une abondance de couleurs qui s'entrechoquent, qui se heurtent, mais qui finissent par former une espèce de symphonie assez extraordinaire. Et il y a aussi toujours une patte extrêmement travaillée, généreuse. C'est une espèce de trituration que la peinture de Jorn est, comment dirais-je, toujours une espèce de folie finalement. Il y a une espèce de, c'est ça qui a rendu difficile l'acceptation de l'art de Jorn dans le milieu français. C'est quelque chose qui est au fond assez étranger à l'art de ce qu'on a pu appeler l'école de Paris, par sa violence, par son aspect tonitruant, par son humour aussi, un humour décapant. Et c'est là d'ailleurs où il se retrouvait avec Dubuffet.
L'activité expérimentale s'approfondit à Cobra. Peintre, poète, photographe, sculpteur, cinéaste, architecte, ethnologue mélangent organiquement leurs expériences. La vie devient de plus en plus nomade. Les expositions auront lieu à Bruxelles, Amsterdam, Liège. On improvise en été 1949 au Danemark les rencontres de Brenjerød, une des expérimentations les plus totales. À Brenjerød, les non-peintres ont peint, les non-sculpteurs ont sculpté, les spécialistes du chevalet sont montés sur leurs grands chevaux, les non-poètes ont écrit, disait Dautremont. Le poète Édouard Jaguer assistait à ces rencontres.
Ma femme et moi, nous y étions. Nous avons fait ensemble une décoration sur les lieux où Jorn et Dautremont vivaient, qui était une maison d'été des architectes. Décoration qui n'existe plus, d'ailleurs.
Est-ce que ça ressemblait plus à des vacances ou bien...
Ça tenait de l'un et de l'autre. En tout cas, ça n'était certainement pas l'atmosphère d'un congrès, parce que par la suite, on a parlé du congrès de Brenjerød. Et là, ça aurait été... largement exagéré d'appeler ce rassemblement un congrès. Il y avait des moments où, effectivement, l'atmosphère était plutôt une atmosphère de vacances. Et puis d'autres où, tout de même, on travaillait, et on travaillait d'une manière collective, parce qu'on a quand même mené à bien cette décoration du local qui était assez vaste en quelques jours. Moi, je ne suis pas celui qui a donné le plus grand nombre de coups de pinceau, d'ailleurs, loin s'en faut. Mais enfin, j'y ai participé, et il y avait là... des Suédois, des Belges, des Danois, des Hollandais. C'était vraiment très bien. Et moi, je garde de ces journées-là un souvenir assez enthousiaste.
L'art populaire est l'art du peuple mondial, et il n'existe pas d'art spécifiquement national. Le caractère national n'est qu'une variation du thème commun. L'art populaire est l'expression de la liberté du peuple. Quand un peuple perd sa liberté, il perd aussi son art national. Quand l'industrialisme capitaliste l'emporte, et que l'art populaire ne dispose plus que des urinoirs pour s'exprimer librement, il s'en va ailleurs. Picasso et d'autres peintres espagnols nous ont montré qu'un artiste peut bien vivre en exil sans perdre son caractère national. Seul l'artiste qui a l'esprit international trouve son inspiration dans l'art populaire. Thank you.
vous êtes musicien. Vous pensez que Jorn ne vous a peut-être pas influencé directement sur votre musique, mais est-ce qu'il y a eu une influence indirecte ou...
Sur ma musique, oui, bien sûr. La musique dodécaphonique, sérielle à l'époque, nous sommes en 1950, peut vraiment pas s'intégrer dans l'esprit populaire, lire spontané de Cobra, c'est évident.
Jacques
mais
Calonne.
Il y a certainement eu une influence dans ma façon de penser, même dans cette musique-là et plus tard, mais que je n'attribuerai pas plus particulièrement à Jorn qu'à Cobra en général. Parce qu'enfin, que ce soit Jorn ou tous les autres peintres des trois pays et de quelques pays satellites, disons, sudistes, entre autres, il y a un esprit qui unit tous les artistes de Cobra. Et là, certainement, mais c'est pas fait, pas facile à définir, mais il y a certainement une influence. Par exemple, cet esprit cette façon de ne pas prévoir ce qui va se passer lorsqu'on peint, comme c'est le cas d'ailleurs, là j'ai vu faire des tableaux entièrement, et visiblement il ne sait pas ce qui va se passer avant d'être à la fin, et toujours ça s'engendre à cause de cette matière, la ductilité de telle couleur, la couleur elle-même. Et dans ma musique, très tôt, je l'ai fait de cette manière-là, et c'est bien plus tard qu'on a parlé de formes qui s'engendrent par sa propre matière, comme Boulez en parle souvent, par exemple, ou comme on en parle à propos de Mallarmé. Mais je l'ai peut-être fait avant tout le monde à cause de ça, j'en étais conscient que c'était cette forme-là, non pas une forme préconçue en musique, comme la forme sonate, etc., mais une forme qui est liée à cette matière-là. Et ça, ça vient de la peinture, ça, il n'y a pas de doute.
Jorn lève la trappe du tableau, il gravit les grottes, forger les éperons du serpent. Il bouleverse la table, des matières naturellement. Lier, délier, le sol, le spectre de la nuit, le soleil, l'enfer, l'herbe. Il peint le Jutland dans l'histoire de l'art, chambouler le rectangle. Il fourre de cailloux le savon de l'esthétique, libérer le miroir. Il laisse aux éclats du travail le souffle du cri. Démurer le mur. Il branche la place sur les chemins. Dérouter la route. Il écrit avec patience la pensée qui l'impatiente. Allumer l'attention au démêlé des nœuds, au nid mêlé. Il verse les sables des sabliers, il en fait rive neuve.
Christian Dautremont.
Fin 1950, à Suresnes. À la veille de Noël, Jorn flanche. Il demande un secours à l'attaché culturel du Danemark à Paris, comte de sorcière. Un coursier de l'ambassade apporte au père Jorn, dira-t-on sur ce ton apitoyé, que l'on prend pour dire pauvre Vincent, une paire de chaussures usagées ornée d'un petit drapeau danois monté sur cure-dent.
Comment est-ce que Jorn a vécu la fin de Cobra ?
Il l'a vécu d'abord comme avec une certaine délectation masochiste. Il a certainement été l'un des artisans de la désagrégation de Cobra, mais sans doute parce qu'il était un peintre d'une puissance de création beaucoup trop grande pour rester trop longtemps lié à un groupe. Un peu le cas de Picasso, on ne voit pas Picasso rester cubiste toute sa vie. Et donc, à un moment, il a fait éclater Cobra, en quelque sorte. Un peu par sa virulence, par ses fâcheries avec certains des membres de Cobra, etc. Et puis, il est allé ailleurs, vers ce qui est devenu l'International Situationniste, où il s'est retrouvé avec un des protagonistes de Cobra, le Hollandais Constant, avec qui il avait été d'ailleurs brouillé pendant assez longtemps pour des raisons alors d'ordre privé, puisque la première femme de Constant, Mathie, était devenue la femme de Jorn. Donc là aussi, les problèmes sentimentaux ont joué un rôle dans le groupe Cobra tumultueux, comme dans beaucoup d'autres groupes d'ailleurs. Ça fait partie, évidemment, de la vie.
Il faut vous dire que Jorn était à la première exposition de Cobra au musée d'Amsterdam. Il était absent. Il n'était physiquement pas là. Il était au Danemark
et il était parti avec la femme de Constant. Ça, c'est une chose assez importante pour, dans l'histoire de Cobra, dont on ne parle plutôt jamais, mais qui est quelque chose qui a interrompu entre nous des contacts très importants. C'est-à-dire que pendant longtemps, il n'y a pas eu le moindre contact entre Constant et Jorn, par exemple. Et Jorn ne pouvait pas décemment être à un vernissage ou être dans une exposition où il risquait de rencontrer Constant. Donc c'était pendant cette très, très courte période de Cobra, ça prend dans le temps une importance démesurée.
La fin de Cobra, comment est-ce que Jorn l'a vécu, ça ?
Mais je pense qu'il ne l'a pas vécu très bien, et d'autres m'ont non plus, mais il n'y avait pas autre chose à faire. Enfin, c'était les deux piliers de l'activité Cobra, et ils se sont retrouvés tous les deux très malades, il faut bien le dire, dans le même sanatorium. C'est d'ailleurs assez extraordinaire, vous savez la manière dont ça s'est passé pour d'autres m'ont. Jorn ayant été hospitalisé parce qu'il avait, il était bacillaire, enfin, il avait une tuberculose assez dangereuse, et donc il avait été hospitalisé, et d'autres mons avaient été lui rendre visite, mais une visite d'amitié, comme ça. Et par jeu, et aussi par une espèce de solidarité avec Asger, il a décidé de passer une visite à l'hôpital en question, qui était un des meilleurs hôpitaux du Danemark pour ce genre de maladie. Et puis, il a passé la visite et les médecins ne l'ont pas laissé repartir. Parce qu'il était très gravement atteint, lui aussi.
De l'oreiller à la pierre, les trous ont beau se combler, le mot caverne devenir musée restera la mort. En société, dans le langage, en médecine, tout se vit comme si rien n'était plus difficile que disparaître. Christian d'Autremont et Asger Jorn furent longtemps habités par les cavernes de la tuberculose pulmonaire. Ensemble, à Massy-Verrières, puis à Bruxelles, ils firent en 1948 et plus tard aussi, dans leur chambre du sanatorium de Silkeborg, des mots, des dessins mots, des peintures mots. Dans l'encrier de Chine rêve le texte que je songe parfois à écrire. Haussement d'épaules, mouvement panique, de main à plume, avant d'être rendu à la vie normale, il faut bien s'organiser un peu. Ces enseignes simultanément peintes, écrites, furent dans un grand rire jeté par l'ouverture qui donne sur le rien, étant pensé que le rien offre déjà une ouverture extraordinaire, tandis qu'en Europe se dispersait, et pour cause Cobra, ici la chevelure des choses coiffée avec un doigt d'eau.
On a l'impression d'une personnalité avec un grand contraste, une sorte de grande vitalité et en même temps une fragilité.
Oui, il ne donnait pas cette impression fragile au point de vue physique, hein, parce qu'il était plutôt assez costaud comme ça, il était un peu corpulent, enfin pas trop d'ailleurs, il était normal, mais très dynamique. Et, mais je veux dire, il n'était pas maigre, il n'avait pas une maigreur de tuberculose, il n'y avait pas de traces de tuberculose visible sur lui. Ni de maladie, il n'avait pas l'air malade du tout. Mais il a crevé tellement de faim, il a mené une vie tellement difficile que pour un tuberculeux, c'est très mauvais. Pour tout le monde, c'est mauvais, mais encore plus pour un tuberculeux, évidemment.
Et puis j'imagine aussi que du temps de Cobra, ça devait être aussi une franche rigolade à certains moments, non ? dans les virées.
Oui, absolument. C'était quelque chose dont on ne peut avoir que la nostalgie, parce que d'abord c'était la camaraderie, ce qui est quand même très important, et quand on vieillit, il y a moins de camaraderie, il y a des amitiés qui subsistent, mais ce n'est plus la même camaraderie, c'est plus... Le temps ne compte pas à cette époque, je veux dire, on a tous le temps de se voir, on a le temps de passer des soirées ensemble, on se lève tard le matin si besoin est, ça n'a pas d'importance. Donc, oui, Cobra, c'était en même temps la jeunesse, et donc, à la fois la jeunesse d'un art, à la fois la jeunesse d'une génération, tout ce qui peut laisser le souvenir le meilleur, le plus ébloui, le plus incontournable et l'impossible à retrouver.
Profil perdu, Asger Jorn, par Luc Ponette. Avec Pierre Alechinski, Michel Ragon, Joseph Noiret, Denise Breteau, Édouard Jaguer, Jacques Calonne, les voix de Christian Dautremont et de Constant, document INA, entretien avec Jean-Clarence Lambert, 1979. La voix de Jorn, document de la radio danoise. La participation de Philippe de Wolf, de la RTBF. Texte lu par Yves Arcanel. Mixage, Christian Prévost, Bertrand Durand. Réalisation, Marie-France Nussbaum.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 mai 1993. Demain, à la même heure, dans les nuits de France Culture, deuxième volet de cette série de Profils perdus.